7h.
Il est 7h.
RFI Musique.
Merci d'écouter RFI, les 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est le journal. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Les yeux des fans de foot africains rivés sur le Maroc.
Comme depuis 3 semaines, mais encore plus. Aujourd'hui, demi-finale alléchante, 2 affiches, 2 chocs. Sénégal-Égypte et Maroc-Nigéria pour une place en finale. Reportage à Casablanca dans un instant où la pression monte tout doucement. Dans le reste de l'actualité, les premiers témoignages qui nous parviennent d'Iran. Voilà 18 jours que les protestations ont débuté. 5 qu'Internet est coupé, des bilans humains qui grimpent, tout comme la pression exercée par les États-Unis qui encouragent vivement les manifestants. Nous sommes à Téhéran, Washington qui continue d'étudier ces dossiers brûlants. En attendant, une rencontre qui pourrait être, elle, glaciale. Les chefs de la diplomatie groenlandaise et danoise reçus à la Maison-Blanche, mais sans Donald Trump, lui qui compte s'emparer du territoire d'une manière ou d'une autre.
Le Maroc entier retient son souffle, et pas que le Maroc, même à quelques heures de la demi-finale de la CAN face au Nigeria.
Les Lions de l'Atlas n'avaient plus atteint le dernier carré de la compétition depuis 2004. Un souvenir joyeux. À l'époque, ils avaient battu les Super Eagles et cette fois, ils sont à domicile. Et comme à chaque match de l'équipe nationale, les cafés et restaurants affichent complet. Ce sera une nouvelle fois le cas ce soir dans les quartiers de Casablanca où François Umfer Katadji est allé prendre la température.
Les tables, c'est déjà réservé pour demain.
Le calme avant la tempête. Ce restaurant est quasiment déserté à la veille de la demi-finale tant attendue des Lions de l'Atlas. Mais demain, plus aucune chaise ne sera disponible.
Toujours la réservation pour les clients. Et il fait l'ambiance ici pour le match. Toujours l'ambiance dans les cafés, dans les restaurants.
D'autres lieux n'acceptent pas les réservations. Il faudra venir 1 à 2 heures en avance, explique Saïd, le gérant du café Smart, pour espérer trouver une place.
Tous les matchs avant qui sont passés, on est bien. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a de l'ambiance, les gens ils viennent 1 heure avant le match pour avoir la place, car tous les chaises sont pleines.
Saïd, au demeurant très confiant avant ce match contre une redoutable équipe du Nigérien.
C'est le Maroc qui va gagner, 2-0, comme le match avant. Brahim Diaz aussi, c'est lui qui va marquer le premier but, et le deuxième but c'est Achraf Hakimi.
Et même ceux qui n'aiment pas tellement le foot, comme Ilyes, habitués de ce café, finissent par y trouver leur compte.
J'aime bien voir ce genre de match, même si je ne suis pas trop foot, mais ce type de match, j'aimais le voir.
Tout le pays va retenir son souffle au coup d'envoi de ce match au sommet. Les Lions de l'Atlas courent après ce titre continental depuis 50 ans. François Umfer Katadji, Casablanca, RFI.
Nigeria-Maroc, coup d'envoi 20h, temps universel à Rabat. Avant cela, à 17h, TU à Tanger, l'autre demi-finale, l'autre choc, Égypte-Sénégal. Si vous nous écoutez depuis le continent africain, vous suivez ces deux rencontres en intégralité sur RFI.
RFI.
Continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions.
Ces quelques mots, 6 dans la version anglaise, en majuscule et ponctués de 3 points d'exclamation. C'est Donald Trump qui les a écrits sur son réseau Truth Social à destination des manifestants iraniens protestataires réprimés. L'organisation RANA, dans un bilan mis à jour il y a quelques minutes, comptabilisait 2571 morts, 734 selon Iran Human Rights hier soir, et malgré désormais plus de 130 heures de coupure d'Internet, les premiers témoignages parviennent de Téhéran. Hier soir, notre correspondant sur place, Yavosh Ghazi, est parvenu à nous joindre pour nous raconter les 4 derniers jours et nous expliquer en quoi ce mouvement se démarquait des précédents dans le pays.
Par rapport au mouvement de ces, par exemple, 10 dernières années où il y a eu des manifestations contre la vie chère, contre la hausse du prix de l'essence, après la mort de Mahsa Amini, arrêtée pour mauvais respect du voile islamique, là, on a assisté à un changement, à une radicalisation du mouvement qui est devenu un mouvement avec des slogans très politiques en faveur de l'ancienne monarchie et du retour de la dynastie Pahlavi, et des slogans très durs contre le pouvoir. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a eu des manifestations très importantes dans des petites villes de province qui sont inconnues pour la majorité des Iraniens. C'est des villes dont on n'a jamais entendu les noms. C'est des petites villes avec des classes populaires très pauvres qui sont descendues dans la rue. Et donc, c'est le changement par rapport, par exemple, aux manifestations auquel on a assisté en 2022 après la mort de Mahsa Amini en prison.
Témoignage de notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, que l'on retrouve en direct dans le prochain journal dans une heure pour les derniers développements.
Et face aux menaces brandies par Donald Trump, l'Iran réplique.
Nous agirons de manière très forte, dit Washington, en cas d'exécution de personnes arrêtées durant les manifestations. Téhéran qui accuse les États-Unis de chercher un prétexte pour une intervention militaire.
Attaque américaine qui trotte encore dans la tête des Irakiens.
Les voisins des Iraniens qui se souviennent de la chute du régime de Saddam Hussein. Sur place, certains s'inquiètent des conséquences d'un éventuel effondrement du pouvoir des Mollahs. Les habitants sont en tout cas très divisés, comme l'a constaté Marie-Charles Troupy à Bagdad.
Place Tahrir à Bagdad, deux frères se disputent dès lors que l'on évoque les manifestations en Iran. Ali, l'aîné, pourrait soutenir une intervention américaine contre un régime iranien, selon lui, trop investi dans les affaires irakiennes. Mais il craint le chaos qui pourrait suivre sa chute.
Si une guerre se produit en Iran, nous avons des factions armées irakiennes loyales à l'Iran qui prendraient part au combat. Ils nous ont envahis d'une façon indirecte grâce à leurs intermédiaires et à tous ceux qui ont des liens avec l'Iran.
Et l'Amérique ne s'y mise pas ?
Son cadet, Hodaïfé, lui rejette toute ingérence états-unienne en Iran, dont il soutient le régime.
Ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est d'imposer une vision du monde. Ce n'est pas logique. Notre culture est islamique, il ne faut pas l'oublier. Nous soutenons l'Iran tant dans nos idées que dans nos convictions religieuses. Et en tant que musulmans, nous sommes contre l'intervention d'un tiers.
Plus loin, une femme plus âgée n'est pas plus rassurée.
Nous avons vécu cette expérience en Irak en 2003. Quand les États-Unis interviennent, nous nous attendons au pire.
Tous se rejoignent sur un point. L'Irak subit déjà les conséquences des sanctions imposées contre l'Iran et ses partenaires commerciaux, et cela ira en s'aggravant en cas de guerre.
Les conséquences seront en premier sur l'électricité, parce que nous importons le gaz d'Iran et il y a de nombreux liens commerciaux entre l'Irak et l'Iran. C'est certain, nous subirons une forte pression économique.
Chaque annonce venue de Washington ou Téhéran est scrutée ici dans l'espoir que les menaces ne se concrétisent pas. Marie-Charles Troupy, Bagdad RFI.
Et le Venezuela aussi a subi une attaque américaine. C'était il y a 10 jours. Elle avait mené à l'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse, depuis retenue aux États-Unis. Des prisonniers américains ont commencé à être libérés par le Venezuela. Une étape importante dans la bonne direction de la part des autorités intérimaires, dit un responsable du département d'État. Ne sont pas précisés en revanche l'identité de ces personnes retenues ni leur nombre. Donald Trump qui se félicite de ce geste, affirmant en retour avoir annulé une nouvelle attaque américaine.
Et dans la foulée de cette intervention, Nemo, Donald Trump menaçait le Groenland,
dont il dit vouloir s'emparer. Le président américain qui sera absent ce mercredi d'une réunion à la Maison Blanche où Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et le vice-président J.D. Vance accueillent les ministres des Affaires étrangères du Groenland et du Danemark. Objectif affiché, dissiper les malentendus à Washington et proposer des solutions alternatives à l'annexion pure et simple. Je vous propose d'écouter l'analyse de Marc Lantaigne, politologue à l'université arctique de Tromsø en Norvège.
Tout d'abord, ils peuvent proposer d'améliorer la sécurité globale au Groenland en donnant aux États-Unis un rôle plus important dans sa protection. Et les gouvernements danois et groenlandais ont déjà déclaré qu'ils étaient tout à fait ouverts à cette idée. Ils ont dit qu'ils comprenaient les préoccupations légitimes des États-Unis en matière de sécurité et qu'il pourrait y avoir un moyen pour le Danemark, pour l'OTAN et les États-Unis de coopérer plus étroitement. Un autre sujet possible de discussion porte sur les ressources minières. Le Groenland dispose d'un grand potentiel pour développer son industrie. Il pourrait donc y avoir un moyen pour le Groenland de coopérer avec les États-Unis dans ce domaine, en particulier pour les terres rares et les minerais stratégiques. Il existe donc certains domaines de négociation potentiels qui pourraient être abordés. Mais nous en revenons à la question suivante. Qu'est-ce que les États-Unis vont accepter? Et surtout, accepteront-ils un accord qui n'irait pas jusqu'à l'annexion pure et simple?
Le politologue Marc Lantaigne, joint par Daniel Vallot. Dans l'actualité, en bref, ce mot d'environnement 2025, la troisième année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, selon les données délivrées chaque année par l'Observatoire européen Copernicus et l'Institut américain Berkeley Earth. Les températures températures ont quasiment atteint les records de chaleur établis lors des deux années précédentes, 2023 et 2024. La moyenne de ces températures a pour la première fois dépassé de plus de 1,5 degré le niveau pré-industriel, soit la limite de l'accord de Paris adopté en 2015. Des accusations biaisées et sans fondement, voilà ce que dit le ministère des Affaires étrangères de la junte birmane, alors qu'ont débuté lundi des audiences devant la Cour internationale de justice pour génocide contre la minorité musulmane Rohingya. La Gambie accusant Rangoon de violation de la Convention des Nations Unies sur le génocide. Des centaines de milliers de personnes de cette minorité ont été prises pour cible et exterminées, disait lundi devant la plus haute instance judiciaire de l'ONU, le ministre gambien de la Justice.
La politique française et le gouvernement de Sébastien Lecornu qui fera face à deux motions de censure aujourd'hui.
L'une du Rassemblement National, l'autre de la France Insoumise. Alors, peu de chance qu'elle soit adoptée, mais cela fait tout de même monter la pression sur le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a tout intérêt à faire adopter un budget le plus vite possible, Victorien Vuillaume.
Pour aider les agriculteurs, le Premier ministre a fait une série d'annonces, mais la plupart sont conditionnées à l'adoption d'un budget. La voie du vote étant plus qu'incertaine, deux outils font parler d'eux. Le 49-3, même si Sébastien Lecornu semble toujours réticent, et le passage par ordonnance qui prend de l'épaisseur. Anne Jeuneté, députée Renaissance.
Ça serait un précédent sur le plan juridique. On n'a pas de précédent de faire passer un budget par ordonnance, même si la Constitution l'a prévu. Je rappelle que c'est un outil constitutionnel. Est-ce celui-ci qu'il faut utiliser? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que s'il est utilisé, la France, au moins, elle est dotée d'un budget. Et c'est ça l'urgent.
Sans être très friand de cette option, un député de droite le reconnaît, là où un 49-3 fait peser le risque de faire tomber le gouvernement et le budget. Les ordonnances sécurisent l'adoption d'un budget. Elles permettent aussi au Premier ministre de ne pas se renier. Le PS ne dit pas totalement non, mais maintient la pression. Le député Arthur Delaporte.
Ce qui compte, c'est le résultat. Le chemin est étroit, il existe, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des Françaises et des Français. Et donc si c'est le budget initial Bayrou, évidemment que ça ne passera pas.
Et le chef de gouvernement le sait, quel que soit l'outil choisi, 49-3 ou ordonnance, il devra s'assurer de la clémence du PS pour éviter la censure. Le parti de la Rose qui a déjà annoncé qu'il ne soutiendra pas les motions examinées ce mercredi.
Victorien Vuillaume. Et puis une sortie cinéma pour refermer ce journal. Fursi, né libre, le nom du deuxième long métrage d'Abdal Malik, film qui retrace une affaire méconnue de l'histoire coloniale française à travers le combat obstiné d'un homme né libre mais réduit en esclavage. Elisabeth Le Quéré a vu le film.
Fursi, né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes.
C'est l'histoire d'un homme qui refuse sa condition d'esclave et choisit l'arme du droit pour conquérir sa liberté. En 1817, Fursi découvre à la mort de sa mère des documents qui prouvent qu'elle avait été affranchie. Conclusion, il aurait dû naître libre. Commence alors un combat judiciaire de près de 30 ans qui le mènera jusqu'aux plus hautes juridictions françaises.
Un esclave n'est pas une personne, c'est un meuble.
Abdal Malik.
On suit progressivement quelqu'un qui dit « Moi, je ne veux pas contester le système, je suis libre, comment on fait ?» Donc d'une certaine manière, il prend l'arme du colon et la retourne contre lui. Tout d'un coup, pour moi, on avait affaire à une figure héroïque.
Je manie la guerre des papiers, ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat.
Abdal Malik filme ce procès vieux de 200 ans à l'aune du contemporain. Que signifie vivre dans un état de droit quand la loi elle-même est injuste? Le film sort au moment précis où le Parlement français examine l'abrogation officielle du Code noir, jamais formellement supprimé depuis 1848.
Elisabeth Le Quéré.
Et Nemo en piste pour le journal. Merci à vous. 7h13 à Paris dans 5 minutes. Notre grand invité international, le représentant en France de l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, Kerim Kamar, avec Guilhem Deltey. D'abord un mot de l'infosport avec vous, Christophe Diremzian, et du foot. Marseille rejoint à son tour les huitièmes de finale de la Coupe de France.
L'OM dernier qualifié est le plus facilement et de loin face aux amateurs de Bayeux, pensionnaires de 6e division. Pas de sentiment, pas de quartier. Un carton 9-0 face aux pauvres Normands à l'issue de ce match délocalisé à Caen. C'est rude, admet le capitaine bayeuxin Grégoire Delain, mais ça ne gâchera pas la fête.
Il n'y a pas une photo sur le score, il y a un monde d'écart, ça c'est sûr, on l'a senti sur le terrain. Beaucoup de respect même sur le terrain. Ils ont été très respectueux avec nous, franchement, très, très, très bien de leur part et bah, félicitations quand même. Ouais, c'est inoubliable ce qu'on a vécu là avec 20 000 spectateurs à Dornano, l'ambiance et tout. Ils nous ont pas lâché du début jusqu'à même 90e où on peut potentiellement marquer. Ils étaient à fond et ça fait trop plaisir. C'est, C'est de grandes émotions.
Grégoire Delain sur beIN Sport. En huitième de finale, Marseille recevra Rennes. Parmi les autres matchs tirés au sort, le Paris FC, tombeur du tenant du titre, le PSG, ira à Lorient. Lens ira à Troyes, club de Ligue 2. Monaco se déplacera à Strasbourg. Et Lyon accueillera Laval, autre formation de Ligue 2.
Des huitièmes de finale de coupe, Christophe, on en dispute dès aujourd'hui en Espagne.
Trois matchs au programme, avec notamment le déplacement à Albacete, club de deuxième division du Real Madrid. Trois jours après avoir perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone. Défaite fatale, on le sait, à l'entraîneur Xabi Alonso, remplacé par Alvaro Arbeloa. L'ancien latéral droit du club merengue s'occupait jusqu'alors de la réserve, la Castilla, et changé de banc pour s'asseoir sur celui de l'Equipa. C'est autant une fierté qu'un accomplissement.
Évidemment, pour moi, c'est un jour spécial.
Évidemment, pour moi, c'est un jour spécial. J'ai autant d'envie que depuis que je suis arrivé au club, il y a 20 ans. Je vais avoir 43 ans et ici, c'est ma maison. Passer autant de temps dans le meilleur club du monde, le meilleur club de l'histoire du foot, ça veut tout dire pour moi. Je suis conscient de ma responsabilité. On a de beaux défis devant nous et on va y aller avec beaucoup d'envie.
Alvaro Arbeloa, plus de 240 matchs sous le maillot du Real et donc le premier ce soir à 20h, temps universel, contre Albacete. Hier soir, l'Atlético de Madrid s'est qualifié pour les quarts en allant battre 1-0 le Deportivo La Corogne.
En Angleterre, Christophe, Manchester City bien parti pour la finale de la Coupe de la Ligue.
Victoire 2-0 des Citizens à Newcastle à l'issue de la première demi-finale aller. La seconde, c'est un derby londonien, Chelsea-Arsenal. Le premier du genre pour le nouvel entraîneur des Blues, Liam Rosenior, admiratif de son homologue Mikel Arteta, actuel leader de la Premier League avec les Gunners.
Mikel Arteta fait un travail incroyable. Il a eu le temps de construire l'équipe qu'il souhaitait. Elle est très bien organisée dans tous les aspects du jeu. Et comme je l'ai déjà dit, tout le monde doit commencer quelque part. Et moi, j'ai vraiment hâte d'être à ce match. On a un parcours très différent, Mikel et moi, et chacun a sa propre façon d'arriver à ses fins. Je respecte tout le monde dans ce milieu, car c'est un milieu difficile. En tant qu'entraîneur, on est jugé constamment, sur chaque mot, chaque action, chaque match.
Especially as a coach, you're judged on every word, every action, every game. Liam Rosenior, Chelsea Arsenal, 20h TU.
Voilà, et puis l'actu foot aujourd'hui, c'est bien sûr les demi-finales de la CAN. On en parle avec vous dans une demi-heure, Christophe Diremzian.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est aujourd'hui l'économie sur RFI. On parle ce matin des droits de douane, pierre angulaire de la politique internationale et de la stratégie économique de Donald Trump. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Stéphane, c'est aujourd'hui que la Cour suprême américaine pourrait s'exprimer sur la légalité d'une partie de ces droits de douane. Une stratégie brutale, très coûteuse, surtout au point d'être aujourd'hui contestée devant la plus haute juridiction du pays.
Et vous vous souvenez sûrement de cette image. C'était le 2 avril dernier, dans les jardins de la Maison Blanche. Donald Trump présente ce qu'il appelle le jour de la libération à la tribune. Il dévoile un grand tableau où il détaille une vague de droits de douane quasi généralisée. L'objectif officiel, c'est de réduire le déficit commercial américain, relancer l'industrie nationale et générer des recettes pour financer les baisses d'impôts et les dépenses publiques. Pour aller aussi loin, Donald Trump contourne le Congrès. Il invoque une loi d'urgence économique qui date de 1977. Son nom, et vous devriez beaucoup en entendre parler, l'International Emergency Economic Powers Act.
Et c'est précisément en raison de l'utilisation de ce texte que la Cour suprême doit statuer.
Exactement, car ce texte ne parle pas de droits de douane. Et qu'aux États-Unis, la Constitution, elle est claire, le pouvoir de lever des impôts et des droits de douane, ça appartient au Congrès, pas au président seul. Toute la question à laquelle devra donc répondre la Cour suprême, c'est de savoir jusqu'où le président peut aller sans l'aval du Congrès, donc du Parlement. Et ces mesures tarifaires mises en place par l'administration Trump sont toujours en place et elles ont déjà rapporté environ 130 milliards de dollars à l'État fédéral, une somme évidemment considérable.
Alors justement, et on en parle très souvent avec vous Stéphane, ce n'est pas forcément les pays étrangers qui paient ces droits de douane, mais bien les importateurs américains.
Oui, avec une hausse des prix à l'importation, une pression sur les marges, des produits un peu plus chers dans les rayons et un secteur manufacturier qui recrute peu. C'est précisément pour cette raison que plus de 1000 entreprises américaines ont saisi la justice. Il y a des petites, des moyennes structures, mais aussi des grandes, parmi lesquelles on peut citer la chaîne de grande distribution Costco, le pneumatique Goodyear ou encore Toyota États-Unis. toutes ces entreprises réclament le remboursement des droits de douane versés aux autorités.
Et donc si la Cour suprême invalide les taxes, ce sont des dizaines, voire la quasi-totalité des 130 milliards de dollars qui devront être remboursés.
Et c'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump parle de catastrophe. Ce lundi, il a affirmé que le pays serait, je cite, « fichu si cette décision était prise ». La conséquence sur les marchés serait réelle également, même s'ils ont anticipé cette option, car imaginons, rembourser ces droits de douane, c'est creuser le déficit budgétaire, augmenter les besoins de financement de l'État, c'est donc tout l'inverse de l'objectif du président américain. Et à l'étranger, ça peut changer aussi les choses, car des entreprises du monde entier ont investi des milliards pour contourner les règles en vigueur depuis le printemps. Certaines y verront évidemment un soulagement, tandis que d'autres subiront tout ça. C'est précisément, Andréane, de cela dont il est question, hein, puisqu'avec des règles du jeu qui changent du jour au lendemain, ça pourrait provoquer une nouvelle séquence d'instabilité pour l'économie mondiale et remettre en question toute l'architecture mise en place depuis maintenant un an.
Stéphane Geneste pour aujourd'hui l'économie sur RFI, 7h20. À Paris, on passe à notre grand invité international. Dans nos studios ce matin, face à Guilhem Delta et Kerim Kamar, représentant en France de l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie.
Bonjour Kerim Kamar.
Bonjour.
La semaine dernière, des combats ont opposé dans la ville d'Alep les forces gouvernementales syriennes ou FDS, les forces démocratiques syriennes qui sont les forces de l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie que vous représentez. C'était les combats les plus graves entre les deux camps depuis la chute de Bachar el-Assad il y a un peu plus d'un an. Au terme de ces combats dimanche, les FDS ont dû quitter les quartiers d'Ashrafieh, de Sheikh Maksoud, qu'elle contrôlait. Quelle est la situation dans ces quartiers aujourd'hui, selon les informations que vous avez?
Quand on parle aujourd'hui de Sheikh Maksoud et d'Ashrafieh, il faut parler de deux points essentiels. L'image qu'on veut montrer dans les médias et l'image réelle de ce qui se passe réellement après le retour de quelques centaines de civils dans ces deux quartiers. Donc l'image, la situation actuelle à Sheikh Maksoud et à Ashrafieh, il y a eu des enlèvements, il y a eu des demandes de rançon. La situation humanitaire, elle est désastreuse, très très compliquée. Quelques centaines de forces de sécurité intérieure appelées Asayish en kurde ont été évacuées avec l'intervention des pays garants comme la France et les États-Unis. La situation actuelle est très très compliquée.
Mais il y avait un certain nombre de personnes civiles qui avaient été déplacées durant les combats, qui ont pu regagner leur domicile, qui sont rentrées dans ces quartiers.
Oui, une petite partie, oui, tout à fait.
Et beaucoup de déplacements encore? Beaucoup de personnes qui ne sont pas rentrées chez elles qui...
Il y a une partie de ces civils qui ont été envoyés dans leur région d'origine, qui étaient déplacés déjà en 2018, et qui ont pu rentrer chez eux non sans difficulté, non sans risque sur leur vie. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des arrestations et même des personnes qui sont aujourd'hui portées disparues parmi ces gens-là qui ont été officiellement et dans les médias qui ont été déclarés comme ceux qui ont rentré chez eux. Donc, et il y a un deuxième volet, c'est-à-dire les gens qui sont partis vers les régions du Nes, et là où la situation humanitaire est vraiment désastreuse parce que les ONG n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face à cette masse ces flux de déplacés, et les autorités de Nes essaye de faire
l'administration du
Nord et de la Syrie essaye de faire tant bien que mal de faire face à cette situation qui est très très critique.
L'armée syrienne a appelé hier les forces kurdes à se retirer d'une nouvelle zone, une langue de terre qui est située entre Alep et le fleuve de l'Euphrate. Est-ce que votre administration entend obtempérer?
L'administration de Damas, de président intérimaire Ahmed Shara, il a une chose en tête, c'est contrôler tout le territoire syrien et remodeler la Syrie à son image. Ça, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est acceptable pour une bonne partie du peuple syrien aujourd'hui. Et ce peuple qui s'est révolté en 2011 contre la dictature de Bachar al-Assad, et il n'est pas prêt à accepter une nouvelle dictature religieuse aujourd'hui.
Mais l'armée syrienne dit que les FTS utilisent cette langue de terre pour lancer des drones iraniens suicides sur la ville d'Alep, et donc pour des besoins sécuritaires, elle a besoin que vous vous en retiriez. Aujourd'hui, vous vous dites, en fait, ils veulent que les Kurdes disparaissent complètement de la Syrie. C'est ça votre message ?
Le message que les autorités intérimaires de Syrie veulent passer, c'est que nous, on veut contrôler tout le territoire syrien, mettre la main sur toutes les ressources de la Syrie, contrôler l'ensemble du territoire syrien et reformuler, remodeler la Syrie à notre image. Et la question, ce qui est dit, quand ils disent qu'il y a des drones ou bien des armées qui viennent de l'Iran, tout ça, c'est vraiment une pure propagande, parce que tout le monde sait que les FDS font partie de la coalition internationale contre Daesh depuis plus de 10 ans, et c'est le seul allié fiable de cette coalition contre le djihadisme dans cette région. Je ne vois pas par quelle raison, quelle logique, les FDS vont aller s'allier avec l'Iran, alors que c'est l'ennemi juré de ses alliés américains et occidentaux.
Des négociations avaient été entamées après la chute de Bachar el-Assad entre les FTS et le nouveau pouvoir de Damas. Il y a eu un accord cadre qui avait été signé au mois de mars. Depuis, les négociations semblaient un peu achoppées. Mais est-ce qu'on peut encore parler de discussions politiques aujourd'hui entre les forces kurdes et le pouvoir de Damas, ou est-ce que l'heure est désormais le retour des combats ?
Déjà, la confiance n'était pas au beau fixe avant ces dernières opérations. Maintenant, c'est très très compliqué de faire confiance à ce pouvoir qui n'a une chose en tête: imposer tout par la force, et derrière l'appui de la Turquie et des pays de la région. Donc je pense que l'objectif et la seule solution pour trouver une issue à ce chaos en Syrie, c'est que le pouvoir intérimaire de Ahmad al-Sharaa accepte de dialoguer avec les Syriens, et pas seulement donner une image portant une cravate et un costard. Que c'est pas comme ça que la Syrie va trouver la paix et la sécurité.
On parle des relations avec l'administration centrale de Damas. Un autre acteur majeur dans le dossier kurde, et notamment dans le nord-est syrien, c'est la Turquie. Aujourd'hui, quel est le rôle de la Turquie dans ces combats et dans le processus politique que vous êtes en train de mener avec les autorités de Damas, sachant que le PKK, un mouvement kurde en Turquie, lui, était engagé dans un processus de paix avec les autorités turques.
Le 4 janvier, les pourparlers étaient arrivés au point où on était vraiment à deux pas de signer un accord, justement, entre le pouvoir intérimaire de Damas et les FDS. Et comme par magie, c'est-à-dire la signature. Ils ont dit qu'on va le reporter au 9 janvier, et le 6 janvier, il y a eu ce qu'il y a eu à Alep. Donc, ce qui veut dire que l'acteur turc est intervenu encore et encore une fois de plus, pour saboter toute issue et toute possibilité de pourparler entre les deux parties. Le gouvernement intérimaire de Ahmad al-Sharaa n'est pas contre le dialogue de principe. Ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Voilà, c'est le pouvoir. Mais c'est cette force régionale qui est la Turquie aujourd'hui qui a le gros rôle néfaste pour saboter toute tentative d'arriver à une solution
et
politique.
Quel message avez-vous reçu de vos partenaires internationaux ? La France et les États-Unis notamment étaient parrains de ces négociations, en quelques secondes.
Les Américains et les Français œuvrent activement pour arriver justement à trouver une solution et la reprise de dialogue entre les deux parties en ce moment.
Merci beaucoup, Kerim Kamar, d'avoir répondu aux questions de RFI.
Kerim Kamar, représentant en France de l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie, il répondait aux questions de Guilhem Deltaï sur RFI. Un entretien à retrouver bien sûr sur notre site RFI.fr. Vous restez bien avec nous, à suivre dans un peu plus d'une minute le retour de l'information africaine, et ensuite ce sera le journal de la CAN sur RFI.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la rate, un organe qui protège des virus et des bactéries.
Demain,
comment mieux prévenir les maladies cardiovasculaires en Afrique?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
C'est un roman qui raconte la Malaisie de l'intérieur, où l'auteur Tash Hao décrit son pays à travers les fractures sociales et les discriminations sexuelles. Mais le temps d'un été, son jeune protagoniste va connaître sa première histoire d'amour. Un rayon de soleil dans cette fiction intitulée « Le Sud ».
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI. Retrouvez RFI sur YouTube. Ariane Poissonnier.
La Radio Mondiale est présente sur la plus grande plateforme de vidéos en ligne du monde. Sur notre chaîne dédiée, vous pouvez écouter RFI en direct 24 heures sur 24, mais aussi découvrir chaque jour des vidéos d'actualité internationale et africaine, des reportages, des interviews et des podcasts.